Dans la grande table des idées aujourd'hui, la désobéissance sauvera-t-elle le monde? Elle fait partie de cette génération née dans un monde en crise, militante écologiste, attirée par les pôles, habituée des missions en Antarctique, avec ses camarades notamment de Greenpeace. Carola Racqueteux a aujourd'hui 32 ans. Dans un livre manifeste, Il est temps d'agir, qui paraît à l'Iconoclaste, elle alerte aujourd'hui sur l'état de notre planète et dénonce l'égoïsme des États et le sort qu'ils réservent aux migrants. Le produit de la vente de ce livre, je tiens à le préciser, sera d'ailleurs reversé à l'association Borderline Europe, engagée dans la défense des droits des réfugiés. Et vous allez comprendre pourquoi. Capitaine du Sea-Watch 3, elle va faire le choix très médiatisé à l'été 2019 d'accoster à Lampedusa, malgré l'interdiction des autorités italiennes, avec des hommes et des femmes à bord, 40 réfugiés ou demandeurs d'asile en état de détresse.
Please, fast, your position, please, your position.
33, 51.
Yes. And then under.
Okay, AC 52. We have small children, please, can you have a break?
Okay, how many people on board?
I think it's about 150 people.
100.
Ce sont des naufragés.
What kind of boat? What?
Ce sont des gens qui risquent la mort. Ils sont entre la vie et la mort. Le droit maritime, l'histoire maritime, tout convoque notre responsabilité.
Nous avons déclaré l'état d'urgence à cause de la détresse psychologique et des conditions humanitaires qui empirent tellement que je ne peux plus garantir la sécurité des personnes qui sont sur mon navire.
Ce sont des naufragés.
L'Italie est envahie à cause de gens comme ça, qui croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il faut la menotter immédiatement.
Qui commet une faute en paye le prix. Et je ne dis pas ça seulement pour cette espèce de grande gueule de capitaine qui fait de la politique sur le dos de dizaines de migrants payés par on ne sait qui. Personne ne descendra de ce bateau sauf si quelqu'un les embarque directement à Amsterdam, Bruxelles ou Berlin. Cette situation me casse les couilles.
Bonjour Carola Racqueteux. Bonjour.
Thank you very much for the invitation.
Merci pour l'invitation.
Et bonjour à votre voix française, Margaret Capel. Votre choix d'accoster, Carola Racqueteux, à cet instant-là, sur l'île de Lampedusa, est-ce qu'il était prémédité? Est-ce que vous y aviez longuement réfléchi? Ou est-ce que vous avez décidé, en un instant, de braver cette interdiction, d'accoster sur cette île?
La difficulté de la situation politique était claire depuis longtemps, même avant que je ne rejoigne cette mission. Il y avait plusieurs bateaux qui avaient été bloqués comme ça pendant longtemps. Donc ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Je l'ai prise en coopération avec les médecins qu'on avait à bord. Et parce que la situation empirait depuis des jours. Donc ce n'était pas une décision spontanée.
Est-ce qu'on peut rembobiner le film quelques instants? À l'origine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un navire en mer, vous êtes, vous, capitaine du Sea-Watch, et ce navire en détresse, vous venez à son secours. Et cette question que vous semblez vous poser, pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas en aide à des gens qui sont en situation de détresse? Vous allez donc décider d'agir. Comment ces 17 jours qui vont s'écouler entre le moment où vous décidez, où vous les recueillez et le moment où vous décidez d'accoster, vont déterminer, aboutir sur cette décision?
Eh bien, nous avons sauvé ces gens, je crois, le deuxième jour de mission, récupéré ces gens. Presque toutes les personnes à bord avaient subi des violations de leurs droits humains. On parle de victimes de torture, de kidnapping, de travail forcé. Presque toutes les femmes avaient été violées. Et leur situation psychologique de santé mentale était très difficile. Ils avaient besoin d'être mis en sécurité dès que possible. Mais psychologiquement, c'est très difficile parce qu'on était incapable de dire aux gens quand on allait pouvoir les amener en lieu sûr. Nous avons essayé de passer par le système judiciaire auprès des tribunaux pour avoir l'autorisation d'entrer. Nous n'avons pas réussi à l'obtenir.
really difficult for us to,
et c'était très difficile pour nous d'expliquer aux gens pourquoi on ne pouvait pas accoster. Alors que clairement, le droit maritime dit qu'ils ont le droit d'être amenés en bord sûr et d'être en sécurité. Ça a créé énormément de pression psychologique et on devenait de plus en plus inquiet qu'ils s'infligent des violences, des risques de suicide pour certaines personnes à bord.
C'était presque pour vous, Carola Racquette, une formation accélérée. Il faut dire qu'à l'origine, vous êtes militante écologique, écologiste, spécialiste des pôles, de la question des pôles et de l'Antarctique, où vous avez déjà mené un bon nombre de missions à ce moment-là. Vous êtes devenue par la force des choses presque une spécialiste du droit maritime et du droit humanitaire. C'est-à-dire que toutes ces conditions juridiques, vous ne les connaissiez pas auparavant. Vous avez aussi questionné des personnes responsable pour savoir ce que vous pouviez faire, c'est ça? Vous avez appris sur le terrain?
Well, I was in a very lucky position, I would say.
J'avais quand même de la chance, puisque juste après avoir terminé mes études de marine, j'ai eu la possibilité de travailler pour l'Institut de recherche polaire allemand. Et pour ma première mission, je suis allée au pôle Nord. Et ça a été un choc énorme. Peu de gens ont l'occasion de voir de leurs yeux ce qui se passe sur les pôles. Et ça vous donne une compréhension tout à fait différente de l'urgence de la crise climatique. Peu de gens peuvent parler avec les scientifiques qui travaillent là-bas et qui m'ont dit que ça fait des années qu'ils envoient les données et qu'aucune action politique n'est entreprise. Et ça m'a fait réaliser que nous ne sommes pas face à un problème de faits scientifiques, mais un problème d'action politique. Et que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on agisse. Et je pense que la possibilité de faire cette expérience par moi-même, aussi bien côté climat sur l'épaule que en Méditerranée, pour comprendre la crise des réfugiés, a été essentielle dans ma manière de me mettre en action.
Il faut la menotter immédiatement. Cette grande gueule de capitaine, on entendait les mots à l'instant de Matteo Salvini, alors ministre de l'Intérieur italien. Ce jour-là, vous étiez peut-être à ses yeux surtout une Allemande en Italie, ce qui dit quelque chose de la division des Européens sur cette question des réfugiés. Vous étiez aussi pour certains une militante déterminée face à une population sur l'île de Lampedusa qui est à cran. Ce que raconte un documentaire « Fuoco Amaro » de Gianfranco Rosi, dont on entendait aussi un extrait. Vous comprenez ce jour-là, et on les a entendus, la violence des réactions à votre égard?
L'Italie est dans une situation vraiment difficile aujourd'hui, de même que Malte et la Grèce, parce que le système de Dublin, qui organise la répartition des réfugiés en Europe, fonctionne de telle manière que les gens doivent déposer leur demande d'asile dans le pays où ils arrivent. Donc ça met énormément de pression sur les États de la frontière sud de l'Europe. Donc c'est une vraie crise de solidarité au sein de l'Union européenne pour prendre la responsabilité de cette situation. Et en même temps, nous avons également le même type de crise sur la question climatique. Parce que est-ce qu'il faut faire ensemble de façon solidaire? Cette solidarité, justement, ne se met en place. Elle n'est pas là, celle dont nous avons besoin.
Quel est pour vous le moteur de l'action?
Pour moi, le plus puissant moteur, je pense, sont ces faits horribles auxquels nous sommes confrontés, les analyses scientifiques dont nous disposons, qui montrent très clairement qu'il faut agir. Parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver dans une situation extrêmement difficile à l'échelle mondiale. Nous avons déjà aujourd'hui des gens qui se retrouvent déplacés à cause des problématiques écologiques, à cause de la désertification, des tempêtes tropicales, des pénuries alimentaires, la perte des revenus, des moyens de survie, à cause du changement des pluies et de la météo et du temps. Donc il faut être très clair sur le fait que si on n'agit pas, ou si on ne va pas sauver les gens qui sont dans la mer, ça veut dire qu'en fait, les gens meurent et ils meurent pour rien. Donc on a deux choix, mais elles ont des conséquences.
Vous dites aussi que la science ou la connaissance scientifique aujourd'hui ne vaut rien ou n'est rien sans l'action politique. Il faut allier les deux. On a beau savoir, si on n'agit pas, si on n'est pas déterminé à agir, rien ne se passera.
I think it's incredibly important that people
Je pense que c'est incroyablement important que les gens s'impliquent, pas uniquement en tant que consommateurs, mais aussi dans de l'action collective pour mettre la pression sur le système politique, pour que le système politique prenne des mesures contre le changement climatique et la crise écologique, des mesures suffisantes pour réellement changer les choses. Parce que ce que les experts disent, c'est qu'on a besoin vraiment de changements transformatifs de notre société, de notre système. Hier, il a été annoncé que nos cibles, nos objectifs en termes de réduction du CO2 étaient ce que les entreprises seraient capables de faire, c'est-à-dire ce qu'elles ont dicté en réalité. Concrètement, on est face à un système où ce sont les entreprises qui dictent les objectifs de réduction du CO2, et non pas les experts et non pas la science.
Et non pas les États. Ou alors les États sont, sur ces questions-là, complices pour vous des entreprises qui ont ces choix à prendre et ces décisions importantes et qui ne les prennent pas.
Je pense qu'il est tout à fait clair que nous avons beaucoup d'influence du monde de l'entreprise dans la sphère politique, beaucoup de financement qui circule dans le mauvais sens. Donc il y a beaucoup de lobbying aussi. Ces connexions-là doivent être éliminées pour que les parlements agissent pour leurs citoyens et pour le bien-être des personnes à l'avenir.
Alors agir, oui, mais comment ? Ce livre, vous l'adressez, Carola Rackete, à toutes les victimes de l'obéissance civile. Désobéir, d'accord, mais quand et pourquoi ?
Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes dans un moment vraiment extrêmement critique de l'histoire humaine. C'est une crise existentielle de l'humanité. Actuellement, on se prépare à une augmentation des températures de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. On sait que sera un effet déstabilisant extrêmement puissant sur la population humaine. Hier, le rapport sur la biodiversité des Nations Unies a été publié. Il est censé montrer où on en est en 2020 et aucun des objectifs n'a été réalisé. Aucun des objectifs de protection de la biodiversité. Donc je crois que c'est important de cesser tout développement industriel qui détruit la biodiversité, qui détruit l'environnement, mais aussi en même temps de proposer quelque chose de positif, un avenir différent, une autre version de la manière dont la société pourrait s'organiser différemment.
Et ça, si les grandes entreprises n'y ont pas intérêt, si les États ne nous protègent plus ou ne vont plus dans le sens de leur population, c'est à la société civile d'agir.
Je pense que nous avons besoin que la société civile manifeste, proteste de façon massive dans les rues. En Allemagne, on voit la différence depuis les manifestations, justement, pour l'environnement, l'impact que ça a eu sur les partis politiques, tous les partis politiques, pour les inciter à l'action. Nous avons besoin de l'implication des citoyens.
Le réchauffement climatique, il est connu depuis longtemps. Dans les années 50, déjà, des scientifiques alertaient sur l'état de la planète, sur la fonte des glaces, entre autres. On va revenir et retourner en son en 1959.
La température moyenne du pôle sud s'est élevé de 5 degrés en 50 ans. Et le réchauffement du Spitzberg est deux fois plus fort. À vrai dire, nous savions bien que nous étions dans une époque de réchauffement. Cela s'enseigne même dans les écoles, ce n'est pas nouveau. La fonte des glaces le long de la côte antarctique provoque une diminution rapide de la salinité de l'eau et il n'y a pas lieu de s'effrayer particulièrement.
1959, on savait déjà, Mais il n'y a pas lieu de s'effrayer particulièrement, dit alors Philippe Diollet, qui est un plongeur, explorateur, quelqu'un d'assez sensibilisé à cette question. Aujourd'hui, votre génération, elle estime qu'il est grand temps d'agir. Quels sont pour vous les principaux signaux que l'on ne peut plus ignorer?
Well, we had, for example, this February,
par exemple, au mois de février, on a mesuré 18 degrés Celsius en Antarctique. J'ai été en mission avec Greenpeace. Nous avons vu beaucoup plus d'ouragans tropicaux ces dernières années que d'habitude. Des sécheresses, même en France, en Allemagne, il y a des pénuries d'eau. En Norvège, le permafrost a commencé à fondre et les maisons se retrouvent les pieds dans l'eau beaucoup plus tôt cette année. Donc il y a des signaux partout.
Et ces signaux-là, vous les avez vus durant vos missions de vos propres yeux. C'est des choses que vous avez pu constater sur place aujourd'hui. Ce ne sont pas simplement des données, des chiffres qui s'accumulent à vos yeux. Comment vous articulez dans votre militantisme au quotidien ces deux crises? Parce qu'on a commencé sur la crise des migrants, la crise des réfugiés, et vous dites d'ailleurs, vous, c'est une crise de justice avant tout, et la crise écologique, environnementale. Comment vous articuler ces deux combats et ces deux crises?
The crises are connected because
ces crises sont liées parce qu'elles s'enracinent dans le système économique qui est fait pour créer de plus en plus de profits en extrayant des ressources et des profits partout où on peut. Même s'il y a eu de la croissance économique pendant les décennies passées, les inégalités entre le Nord et le Sud n'ont fait qu'augmenter. Elles ont été multipliées par 6 depuis les années 70. On a donc 800 millions de personnes qui n'ont pas un accès suffisant à l'alimentation encore. Et alors même qu'on n'arrive pas à assurer le strict nécessaire comme la nourriture, l'eau, l'éducation, un logement pour énormément de gens, en même temps, on détruit la biodiversité, on détruit les écosystèmes. Ou pire, cette biodiversité. Il y a de la pollution partout, l'acidification des océans, etc. Donc nous sommes en train de détruire la planète sans pouvoir assurer le bien-être des gens. Il faut donc se lancer dans un système de redistribution, dans un projet de redistribution des ressources dont nous disposons à l'échelle globale. Et ça, c'est un projet de justice sociale.
Même cause, même solution, même réponse à trouver pour ces deux crises, Carola Rackete, d'après ce que vous dites. On a le sentiment à vous lire, dans Il est temps d'agir, ce livre témoignage qui paraît à l'Iconoclaste, que vos engagements sont nés de petits riens, ou disons plutôt d'observations très concrètes, de moments que vous avez vécu presque de hasard ou de rencontres, que vous n'êtes pas née militante politique engagée, que tout ça est né d'une réflexion qui s'est construite au jour le jour. Avant d'appeler à agir, vous appelez d'ailleurs à écouter des histoires de vie des gens que vous rencontrez, que nous rencontrons, et essayer de comprendre leurs raisons. Qu'est-ce que vous avez appris à leur écoute?
Well, we can see that the situation is...
Eh bien, on voit que la situation est bien pire que ce que nous sommes capables de concevoir ici, dans le Nord. C'est vraiment une lutte entre le pouvoir politique. C'est quelque chose de très clair quand on voit, quand on discute avec les gens qui vivent au Sud. Il ne suffit pas de demander poliment, parce que personne ne vous écoute. Les mouvements du passé aussi ont dû faire beaucoup plus que de demander poliment pour obtenir des changements sociaux. Il faut vraiment des actions massives de désobéissance civile pour réussir. Ça a été le cas pour les mouvements pour les droits des femmes ou le mouvement de libération de l'Inde ou le mouvement anti-apartheid, par exemple.
Which we can see very clearly that we need,
c'est quelque chose d'assez évident qu'il faut entrer dans cette lutte de pouvoir et le faire de façon efficace.
Vous évoquez toutes ces luttes qui ont été menées par le passé, par les générations précédentes, notamment les luttes et les combats féministes. Qu'est-ce qu'ils pensent vos parents, la génération d'avant, de votre combat et de la manière que vous avez de le mener?
I think there are still a lot of lack of understanding.
Je pense qu'il y a toujours un manque de compréhension de la gravité de la situation.
And on the same hand, I think
et en
that
même temps,
if the people would have the time even and the possibility to
si les gens ont le temps et même la possibilité d'essayer de comprendre cette situation, je pense que les gens ne verront plus ces actions comme radicales, ne les considéreront plus comme telles. Mais dans nos sociétés, c'est difficile de trouver le temps de s'éduquer sur tous ces problèmes que nous rencontrons. Mais je pense que si les gens avaient l'occasion de le faire, ils comprendraient et ils verraient le besoin d'agir.
La question de l'accueil, elle n'a pas cessé de se poser ces dernières années. Encore ce mois-ci avec l'incendie qui a ravagé le camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos. L'Allemagne a accepté d'accueillir, proposé d'accueillir 1500 migrants, des rescapés. Est-ce que vous applaudissez cette décision? Est-ce que vous la saluez?
Obviously, the whole EU-Turkey deal has
bien sûr, tout le problème de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, c'est que c'est extrêmement choquant au départ, puisque nous coopérons avec un régime autoritaire et que nous empêchons l'accès au droit d'asile alors que nous avons des conventions internationales que nous avons signées qui protègent ce droit d'asile. Cette situation aussi dans laquelle on ne prend que 1500 personnes, c'est absolument scandaleux quand on voit que l'État fédéral allemand et 150 villes solidaires ont proposé et ont la capacité de prendre beaucoup plus de monde que 1500 personnes. Même la municipalité de Berlin a proposé d'en prendre 2000. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui bloque. Alors qu'il y a toutes ces initiatives incroyables de solidarité. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe dans l'esprit du ministre de l'Intérieur quand il décide non seulement de ne pas aider, mais en plus d'empêcher les municipalités d'aider.
Vous ne comprenez vraiment pas? Vous ne voyez pas aussi la montée des peurs, le rejet qu'il peut y avoir envers les étrangers dans les pays européens, dans une période de crise passion identitaire, mais aussi de crise économique?
I think it's not the right way to deal
with the right-wing. Je crois que ce n'est pas la bonne manière de répondre à l'extrême droite que de répondre à leurs propositions politiques et de les remplir à leur place.
I think we have to stick to the laws that we have signed.
Je pense qu'il faut s'en tenir aux droits dont nous sommes signataires.
We have to stick to the human rights.
Je pense qu'il faut s'en tenir aux droits humains, à la Convention de Genève.
If we would just relocate these,
si on se contentait de réinstaller ces peut-être 40 000 personnes qui sont concernées dans les îles grecques,
I think the political discussion.
Je pense que le débat politique
permettrait
de mieux traiter le sujet. Là, actuellement, on y accorde énormément d'importance, alors que c'est un nombre si petit par rapport à la population européenne.
Cette question de la solidarité, elle se pose aujourd'hui aussi, ou encore en France, et notamment, elle se pose au tribunal à Calais sur l'interdiction qui avait été donnée aux habitants de nourrir ou de donner de l'eau aux réfugiés de Calais, sur des petites choses aussi simples que ça. Pour vous, Carola Rackete, en quels termes cette question de l'hospitalité devrait-elle être formulée?
La situation à Calais shocking already the last time when I was there in 2016 when
la dernière fois que je suis allée c'était en 2016
the bigger jungle was evicted and
quand
the
jungle avait été évacuée et la police mettait du spray au poivre dans la nourriture des gens et empêchait les ONG d'aider et c'est une situation dans laquelle on se retrouve à nouveau
and I just lack any understanding.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi, en tant que société européenne, on ne peut pas trouver une solution pour traiter ces gens de manière humaine.
the UK government in this case in
particular. Pourquoi le gouvernement anglais dans ce cas particulier
these people
ne peut pas autoriser ces personnes à entrer sur son territoire.
Most of them really have a connection.
En réalité, la plupart de ces gens ont réellement un lien dans ce pays. La plupart d'entre eux ont des proches au Royaume-Uni. Ils ont des raisons bien précises qui les poussent à traverser et à ne pas rester en France.
Depuis ces 17 jours de juin 2019, Carola Rackete, où vous avez été propulsée sur le devant de la scène médiatique aussi par la décision que vous avez prise, donc d'accoster comme capitaine du Sea-Watch, de faire accoster ce bateau sur l'île de Lampedusa pour sauver des vies de ceux que vous aviez recueillis à bord. Depuis ce jour-là, quelle route est-ce que vous avez emprunté? Quelle route terrestre ou maritime? Comment votre militantisme, vos combats se sont-ils poursuivis?
Personally, I want to focus on connecting.
À titre personnel, j'ai envie de me concentrer sur l'idée de faire le lien entre la question de la justice sociale, de l'antiracisme, les racines de ces problèmes dans le système économique et le lien avec le mouvement environnemental pour le climat en Allemagne. Parce que je pense que c'est très important qu'on ne reste pas chacun dans un silo et qu'on voit les liens entre ces enjeux. Donc j'ai envie de travailler dans ce sens-là.
Il est temps d'agir, c'est le titre du livre que vous publiez aujourd'hui à l'Iconoclaste, Carola Rackete. Il est temps d'agir, où, comment, pourquoi, tout est expliqué dans ce livre. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Et merci Marguerite Capelle pour votre traduction. France Culture, il est 13h23. Et comme un jeudi sur deux, il est l'heure pour nous de retrouver le rendez-vous de la médiatrice. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Olivia.
Aujourd'hui, vous recevez Sandrine Trainer, la directrice de France Culture. Bonjour Sandrine Trainer.
Bonjour Olivia, bonjour Emmanuel.
Et aujourd'hui, nous évoquons À Voix Nue, une émission qui habituellement ne suscite jamais de critiques. À Voix Nue, c'est un entretien à deux voix qui donne la parole à des artistes, des créateurs, des intellectuels. Ils livrent leurs réflexions au cours de 5 demi-heures diffusées du lundi au vendredi à partir de 20h. La semaine dernière, les auditeurs ont pu écouter les confidences du journaliste Edoui Plenel, un choix qui les a fait réagir. Je vous lis le message d'une auditrice. Cette série d'émissions consacrée à M. Plenel est tout à fait surprenante. Il n'est ni un philosophe, ni un scientifique, ni un écrivain éminent. En tant que journaliste, il a pris des positions très équivoques et choquantes. Alors Sandrine Trainer, pourquoi avoir consacré À Voix Nue à Edoui Plenel?
Eh bien, il était temps, si À Voix Nue ne suscite jamais de polémique, qu'elle en suscite à son tour. Je crois que c'est quand même déjà arrivé. Je me souviens quand nous avons diffusé avant l'été les À Voix Nue avec Jacques Séguéla. Moi, j'avais reçu quelques messages me disant « Jacques Séguéla sur France Culture, est-ce que vous êtes sûr ?» Écoutez, il n'est pas un philosophe, il n'est pas un scientifique, mais il est un journaliste qui a incontestablement marqué notre temps, qui marque notre temps depuis longtemps. Du reste, hein, il faut rappeler aux plus jeunes qu'Edoui Plenel, c'est ce jeune journaliste à l'époque qui arrive au service police du journal Le Monde et qui fait tomber un ministre dans le cadre d'une affaire grave, l'affaire Greenpeace, qui révèle une autre affaire, l'affaire des Irlandais de Vincennes, qui était un faux monté contre des jeunes gens à l'époque. Bon, et on pourrait continuer comme ça pour arriver à la création de Mediapart, qui, quoi que l'on pense de l'engagement du média, qui du reste ne s'en cache pas, est une des très grandes réussites de la presse, en l'occurrence de la presse en ligne, et de réinvention d'un modèle du reste journalistique et économique. Donc je crois que Edoui Plenel est incontestablement quelqu'un qui méritait tout à fait que l'on s'attarde sur son parcours. Je pense que après on peut discuter de la manière de le faire, mais je crois qu'il avait tout à fait sa place dans À Voix Nue.
Alors, outre...
Par ailleurs, pardon, oui. Emmanuel, c'était aussi un ancien chroniqueur de France Culture. Les auditeurs l'ont peut-être oublié. Il a été quelques années jusqu'à la création de Mediapart, où il a souhaité se retirer. Il était chroniqueur dans les matins de France Culture de Marc Voinchet.
Bon, son parcours est très riche. Il a beaucoup publié, mais outre le profil de l'invité, ce qui qui motive ces courriels critiques, c'est la date de diffusion de l'émission. Message d'un auditeur, est-ce vraiment le moment, en plein procès des attentats de janvier 2015, d'inviter ce personnage qui a tenu des propos tellement scandaleux après la tuerie de Charlie Hebdo? Est-ce une provocation ou une simple bévue?
Alors, je reviens pas sur le détail du différend et des propos qui ont amené du reste Edoui Plenel à s'en excuser, qui ont opposé Edoui Plenel avec la rédaction de Charlie Héris et du reste notre producteur vient d'écrire un petit texte de réponse sur ce sujet-là que vous allez pouvoir publier sur votre site de la médiatrice dans les heures qui viennent. Écoutez, je crois qu'en fait il faut pas tout mélanger. En aucun cas, la diffusion de ces avoués nus n'a de rapport avec le procès de Charlie. Et d'ailleurs, il n'est pas question dans ces avoués nus de Charlie Hebdo et de ce sujet-là. Le procès de Charlie Hebdo, il est couvert par la rédaction de France Culture, par la voix de Florence Turme dans les journaux. Il a donné lieu à une excellente matinale avec Denis Salas et Claire Doublier il y a une quinzaine de jours. C'est-à-dire, c'est un sujet que l'on traite en tant que tel. Les avoués nus d'Edoui Plenel ne s'inscrivent absolument pas dans un écho quelconque à ce procès. Je peux comprendre que ça fasse réagir du reste, mais franchement, ça n'a pas de rapport.
Au-delà de l'invitation faite à Edoui Plenel, pouvez-vous nous indiquer ce qui détermine vos choix pour donner la parole à une personnalité ?
Écoutez, c'est à la fois des questions de rencontre et c'est ça qui fait aussi réagir les gens. À voix nue n'est pas une émission polémique, c'est pas une émission de débat d'idées, c'est vraiment une émission où on s'attarde sur la vie et l'œuvre de quelqu'un qui a marqué ou qui marque notre temps. Donc c'est aussi une question de rencontre entre les deux voix que vous avez signalées tout à l'heure. Écoutez, peut-être la programmation peut répondre plaisamment à votre question. Cette semaine, on entend le parcours de la formidable peintre Fabienne Verdier interrogée par Jérôme Clément. La semaine prochaine, ce sera Pierre Birnbaum, philosophe et sociologue. La semaine d'après, c'est Marjane Satrapi. Vous voyez, le cinéma. Et puis, il y aura Patrick Chauvel, ce grand reporter de guerre. Et puis ensuite, Fabienne Servan-Schreiber. Vous voyez, en fait, c'est dans l'équilibre des semaines que se dessine un portrait du temps présent à travers les grandes figures qui, dans tous les domaines, l'impactent.
Mmh. Oui, on entend là aussi que la parité est bien respectée chaque semaine.
Vous avez vu ?
Bravo.
Je voudrais remercier d'ailleurs Daphné Abgral qui travaille beaucoup avec moi sur A Voix Nue et qui y veille.
Merci Sandrine Trainer.
Et merci à vous Emmanuel Davier. Les auditeurs peuvent continuer à vous écrire pour dire tout le bien ou tout le mal qu'ils pensent de l'antenne que nous faisons au jour le jour. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette belle semaine qui a préparé donc et programmé cette émission. À Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées. Merci à Adouk Delfino et à Madeleine Martineux pour leur aide précieuse à la réalisation. C'était Thomas Beau aujourd'hui avec Jérémy Kaufmann. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture. Je vous dis rendez-vous samedi à 17h pour En français dans le texte où nous reviendrons sur les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, entre autres.